Place Info.
Bonjour Yves Verrier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous attendez des vœux présidentiels d'Emmanuel Macron demain soir? Est-ce que vous attendez un cadeau de fin d'année de la part du chef de l'État?
Ben, je ne sais pas si ce sera un cadeau de fin d'année. En tout cas, je pense qu'il est temps, grand temps, d'appuyer sur le bouton stop. Je crois que le paquet cadeau, justement, qui avait été vendu au président de la République en campagne à l'époque de ce régime universel par points, avec le célèbre 1 euro cotisé vaudra les mêmes droits, on voit bien que ce cadeau était un bel emballage, mais dès qu'on a défait l'emballage, eh bien, ça fuit de toutes parts, je l'ai souvent expliqué ainsi, et le gouvernement est obligé de colmater les brèches, et on voit, aujourd'hui, on nous dit, mais universel, qui sonnait bien, ne sera pas uniforme, donc on voit bien qu'on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas pour telle et telle profession, que ce soit les pilotes, les pompiers, les danseurs de l'opéra, y compris...
Mais c'est une mauvaise chose, ça, que le gouvernement ait fait des concessions à certains métiers?
Mais non, mais c'était sûr qu'on arriverait à une situation de cette nature. Moi, j'avais dit que c'était une très mauvaise idée, qu'il fallait mettre de côté cette très mauvaise idée du régime unique par points, parce qu'en réalité, on nous parle d'universel, mais c'est vers cela que le gouvernement voudrait aller, c'est-à-dire un régime sous tutelle de l'État, qu'il pilote, lui, demain, les gouvernements, l'ensemble des paramètres de la retraite, y compris cet âge pivot, d'une manière ou d'une autre, conduira à ce qu'on travaille plus longtemps. Ils l'ont tous dit les uns après les autres, que ce soit le haut-commissaire à l'époque, le Premier ministre, le Président de la République, il faudra travailler plus longtemps. Donc c'est de cela qu'il faut se défaire. Il y a beaucoup à faire aujourd'hui. On nous dit on va négocier sur la pénibilité, sur l'emploi des seniors, mais ça fait longtemps que nous, on a déposé des revendications là-dessus, et c'est là-dessus qu'il faut travailler plutôt que de défaire le système de retraite qui fonctionne très bien aujourd'hui.
Et Verrier, pour bien comprendre, moduler sur l'âge pivot, par exemple, si demain soir Emmanuel Macron dit « Allez, on va travailler sur l'âge pivot un petit peu à la carte au gré des professions », après tout, il y a eu des concessions, vous le rappeliez à l'instant, ça serait une bonne idée, ça, vous pourriez dire « Bon, ok pour la retraite par point, mais on fait de la haute couture ». Profession
non,
par profession.
Non, parce que
ou alors vous dites encore ce matin, tu retires ta réforme, sinon c'est la grève.
Ah, je dirais pas, je tutoierai pas le président de la République, mais le problème, c'est que ce régime unique par points contient deux dimensions très importante. L'une, c'est le mode d'acquisition de son droit à la retraite, qui ne sera plus basé sur les meilleures périodes de la vie active et sur des annuités, quel que soit son niveau de salaire, on valide des trimestres. Demain, il faudra, tout au long de sa vie active, acheter ses points. Et ça sera plus difficile de se constituer ce capital de points. Mais deuxièmement, le deuxième paramètre important, c'est qu'il sera demain, puisque ce serait un régime unique, sous tutelle de l'État, en dernier ressort, quoi qu'on nous dira. Et on a bien compris que vous parliez d'âge pivot ou pas, dès le mois de mars, lorsque le haut-commissaire avait parlé d'un bonus pour inciter à travailler plus longtemps, il ne parlait pas de malus à l'époque. Dès ce moment-là, nous avions dit, attention, ça va vite se transformer, ce bonus, en malus. Pourquoi ? Parce que selon ce que vaudra votre capital de points le moment venu demain, que ce soit 62 ans ou 64 ans, on nous dit on annule la décote à 64 ans au lieu de 67 pour ceux qui doivent attendre à 67 ans aujourd'hui, mais tout dépend de ce qu'est le niveau de la pension à cet âge-là, que ce soit à 62 ou 64, donc on voit bien que c'est intrinsèque au régime lui-même, que demain on donnera les paramètres, les leviers pour agir sur le niveau de la pension et par conséquence sur ce que sera l'âge auquel vous pourrez partir.
Mais
parce que si la
pension
ne suffit pas...
Que si demain soir Emmanuel Macron annonce une modulation de l'âge pivot, comme le souhaite d'ailleurs une partie de la majorité, l'aile gauche de la majorité, qui appelle de ses vœux le président à justement annoncer cette modulation, est-ce que ça veut dire que ça ne servirait à rien? Ça ne serait pas une avancée selon vous?
Ça serait un recul par rapport à ce qui a été annoncé récemment. N'oublions pas qu'au départ, la promesse présidentielle, puisqu'on nous dit que c'est un engagement de campagne, le projet de régime unique par points, c'était de ne pas toucher ni à l'âge, ni de faire des économies. Or ça a été ajouté depuis le mois de mars, c'est venu sur la question, finalement, on va en profiter pour faire travailler plus longtemps, plus rapidement que prévu. C'est ça, en réalité, l'âge pivot. Donc, effectivement, là, il y a un élément nouveau qui a été ajouté au régime unique par point tout de suite pour aller plus vite sur les économies à réaliser sur les droits à la retraite. Donc si on nous dit demain l'âge pivot est retiré ou modulé, ce sera un recul de la part du gouvernement incontestablement, mais ça n'empêche que intrinsèquement, nous l'avions dit, ce régime unique par points, le problème, c'est qu'il génère un système où demain, les gouvernements, en dernier ressort, auront la main sur le pilotage et donc sur le curseur, alors, donc le niveau de la pension ou l'âge auquel vous pourrez partir.
Yves Verrier, par-delà cette considération sur le seul âge pivot et dans l'attente de ce que va dire le chef de l'État, voici ce que préconisait Philippe Martinez, le leader de la CGT, dans la manif samedi à Paris.
C'est au gouvernement de maintenant d'écouter ce qui se passe, d'arrêter de provoquer, parce qu'il y a beaucoup de provocations. Je crois qu'on est dans l'acte 2 du quinquennat Macron. Bah, l'acte 2, si j'ai bien compris, hein, c'est écouter, arrêter d'être arrogant. Eh bien, il a l'occasion de le faire.
Provocation, arrogance, pas assez d'écoute. Vous diriez la même chose à l'égard du chef de l'État que le leader de la CGT ?
Ce qui m'importe, moi, c'est le fond du sujet. C'est le dossier des retraites.
Vous ne voulez pas répondre à ça. Vous pensez qu'il y a une forme
ça ne m'intéresse
pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a une forme
pas.
D'attitude aussi de la part du gouvernement, un manque d'écoute ? Allez, on va parler de ça.
Il est clair que le gouvernement, à l'évidence, est tellement convaincu de la raison de son système qu'il écoute assez peu ce qu'on lui dit. Je rappelle quand même que Force ouvrière, pendant la campagne présidentielle en 2017, puisque c'était déjà dans les débats, nous avions dit que nous serions opposés à un système de régime unique de retraite par points. Donc, nous avons prévenu bien en amont et ensuite, tout au long des 2 années de concertation, parce que tout d'un coup, on nous dit « Ah bien, on va tenir compte de la situation spécifique des danseurs de l'Opéra de Paris. » Très bien, on va tenir compte de la situation spécifique des pilotes et du personnel navigant commercial des compagnies aériennes.
C'est un détricotage pour vous, ça,
mais
du projet
le projet se délite à l'évidence, mais c'était sûr que ça finirait comme ça. Il y a quelques semaines de cela, j'avais dit si le gouvernement persiste, de toute façon, inévitablement, ce système-là, qui sera en réalité beaucoup plus complexe que le système actuel, se délitera, sera corrigé très vite dans les années qui viennent. Donc, tant qu'à faire, appuyons maintenant sur le bouton stop. C'est ce que je demande. J'appelle le gouvernement à revenir à la sagesse. Revenons à la table de la négociation. Nous avons fait beaucoup de propositions. Nous, il y a la question de l'entrée dans l'emploi pour les jeunes, de la prise en compte, par exemple, des périodes de stage. Il y a la question de l'emploi des seniors. Ces questions-là doivent être réglées avant de vouloir supprimer le régime de retraite qui, je le rappelle encore aujourd'hui, il fonctionne. Il fonctionne très bien. Et il n'est pas compliqué, contrairement à ce qu'on nous rabâche à longueur d'éléments de langage, de communication de la part du gouvernement.
Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière. On se retrouve dans un instant pour évoquer la réforme des retraites et la mobilisation qui se poursuit, 26e jour de mobilisation. On va d'abord faire le point sur l'actualité à 8h40. C'est avec vous Stéphane Milhomme.
Entre le manque de moyens, la réforme des retraites, le malaise du personnel hospitalier. Plus de la moitié des infirmiers et des aides-soignants se sentent incapables d'exercer correctement leur mission. 2/3 des soignants estiment qu'ils seront défavorisés par la réforme des retraites. L'enseignement d'un sondage Odoxa pour France Info, Le Figaro et la Mutuelle Nationale des Hospitaliers. Ce léger mieux du côté de la RATP, une promesse de la direction pour ce 26e jour de grève. 14 lignes de métro sur 16 doivent fonctionner normalement ou pas. Aujourd'hui, la moitié des TGV circulent selon la SNCF qui parle de 30% de circulation des TER et 25% pour le réseau transilien. Après le meurtre d'une prostituée mercredi dernier à Mougins dans les Alpes-Maritimes, le suspect de 28 ans a été mis en examen et écroué hier. L'homme originaire de Cannes était un client de cette femme. Il a expliqué aux enquêteurs avoir perdu la raison et étranglé cette prostituée. Et puis en Chine, le créateur des bébés OGM condamné à 3 ans de prison. Le chercheur avait provoqué l'an dernier un scandale planétaire en mettant au monde ses premiers bébés, 2 jumelles dont il avait modifié l'ADN. Le but était de les rendre résistantes au virus du sida dont était infecté son père. Des travaux jugés illégaux.
France Info. Et tout est plus clair.
Yves Verrier, on est donc ce lundi, en ce 26e jour de mobilisation. On sait que le mouvement a dépassé maintenant en durée celui de 1995, qui semblait faire office de référence. Les revendications de votre côté, en tout cas, sont toujours les mêmes. Vous nous le disiez il y a un instant. Les négociations, elles ne reprendront que la semaine prochaine. Est-ce qu'on est là face à un conflit qui s'enlise ?
Ben malheureusement, oui, parce que vous me demandiez est-ce que le gouvernement écoute ce qu'on lui dit. Pendant 2 ans où on lui a expliqué les raisons pour lesquelles nous pensions que c'était une très mauvaise idée que ce régime unique par points, nous n'avons pas été entendus. Il a fallu attendre la grève qui a été lancée le 5 décembre dernier pour qu'enfin on se rende compte que, par exemple, pour les enseignants, ça ne le ferait pas. Qu'on se rende compte que ça n'irait pas pour les pompiers, pour que ça n'irait pas pour la police, que ça n'irait pas, par exemple, le congé de fin d'activité pour les routiers. J'ajoute une chose, on nous a beaucoup parlé des régimes spéciaux. Le gouvernement, une nouvelle fois, a essayé, comme d'habitude sur le dossier des retraites, d'opposer les uns aux autres, les régimes spéciaux au régime général. Mais n'oublions pas que ce qui est en jeu, c'est le régime général de la sécurité sociale. C'est les 18 millions de salariés du régime général et leur régime complémentaire.
Mais vous dites quoi qu'au fond, les cheminots qui manifestent, ou qui sont en grève, ou les conducteurs RATP et autres, au fond, seraient mobilisés pour l'ensemble des salariés qui ne font pas grève ?
Oui, je crois qu'il y a une véritable solidarité, un investissement de la part des grévistes des secteurs des transports en particulier, parce que le gouvernement a effectivement mis en place des systèmes de transition, c'est-à-dire que la réforme finalement ne s'appliquerait pas immédiatement, mais que en 75 pour tout le monde et en 80 ou 85 seulement pour les cheminots, et les cheminots sont toujours en grève. Vous avez entendu les petits rats de l'opéra, les danseurs de l'opéra qui n'acceptent pas la clause du grand-père en disant on va pas sauver notre situation et laisser pour compte les générations à venir.
Vous constatez, vous l'avez dit, vous, dans la première partie de l'interview, au fond, le projet se délite, on dit stop, ça se délite parce qu'il y a déjà une dizaine de concessions, il y en aura d'autres, et vous faites bien de le constater, mais est-ce qu'au moins, avec moins de 10% de grévistes à la SNCF, 40% chez les conducteurs, certes, mais 10% de l'ensemble de la masse des cheminots, est-ce que vous considérez que ces 10%-là qui ont cessé le travail représentent la majorité des Français?
Mais à deux reprises, si on prend ne serait-ce que les chiffres la police, on était près d'un million à manifester, selon les chiffres de la préfecture, simplement partout en France, à deux reprises au mois de décembre. Et le 9 janvier, il y aura encore des centaines de milliers de manifestants. Et j'insiste beaucoup sur le fait que les salariés du régime général, c'est-à-dire les 18 millions du secteur privé, sont directement concernés. Par exemple, le gouvernement vient de concéder aux personnels navigants de l'aviation aérienne qu'ils conserveront leur régime complémentaire.
Ça fait partie du délitement que vous décrivez
tout à l'heure. La GIRC-ARRCO mérite le même traitement. Nous devons préserver, je le dis. Ce serait d'ailleurs une erreur, j'ai parlé d'erreur historique, ce serait une erreur que le gouvernement évince la partie de la retraite qui est négociée directement entre les entreprises et les organisations syndicales représentatives des salariés. Cette partie, qui n'est pas le total du régime des retraites, représente les 18 millions d'actifs cotisants. C'est 70 à 80 milliards d'euros de prestations chaque année qui sont négociées ainsi, qui garantissent, aujourd'hui on a signé un accord au mois d'avril, on garantit une trajectoire financière à l'équilibre pour les 15 années à venir, on garantit le pouvoir d'achat des retraites complémentaires pour les 4 années à venir. C'est cela aussi qui est au centre du débat. Et moi, je ne veux pas laisser de côté, évidemment, ni le régime général, ni les salariés du privé, ni leur régime complémentaire. Bien au contraire.
Mais vous évoquiez tout à l'heure la date du 9 janvier, la date évoquée par tous les syndicats. Qu'est-ce qui va se passer d'ici là? Comment convaincre les gens mobilisés de...
Et effectivement, le 7, attendre le 7 pour renégocier, c'est pas un peu loin quand même, le 7?
Ah mais écoutez, moi j'ai pas demandé de pause ni de trêve sur la négociation.
Nous
avons dit qu'il n'y aurait pas de pause sur la mobilisation, mais ça ne signifiait pas pour nous qu'il devait y avoir une pause sur la négociation. Moi, dès le 23 décembre, j'étais disponible pour aller à nouveau expliquer au gouvernement pourquoi il faut éviter cette erreur qui sera une erreur historique. Je pense que si le président de la République doit s'exprimer sur ce dossier et il est attendu là-dessus, eh bien qu'il convienne que, puisque en même temps c'était on prend les bonnes idées, d'où qu'elles viennent, de droite, de gauche, comme vous voulez, eh bien là pour le coup c'est une très mauvaise idée. Donc les très mauvaises idées, on les met de côté, on revient à la table de négociation, il y a beaucoup à faire, nous avons déposé précisément nos revendications, il y en a 4 ou 5 pages précises d'état auprès du gouvernement et nous n'avons toujours pas ouvert de négociation. On nous dit enfin qu'on va se préoccuper de l'emploi des seniors. Il aura fallu la grève le 5 décembre pour qu'on nous dise la question de l'emploi des seniors est quand même une question qui doit être posée quand on dit parallèlement qu'on veut faire travailler les gens plus longtemps alors que le chômage des seniors a explosé.
Mais... Vous diriez, Yves Verrier, que les grandes centrales syndicales, Force ouvrière, grandes centrales françaises, jouent leur avenir aussi sur cette négociation-là. Vous aviez été évincé, ça a été dit et redit, de la crise des gilets jaunes. Vous aviez un petit peu disparu du paysage de la contestation. Aujourd'hui, c'est un retour en force. Vous jouez votre avenir là-dessus?
Nous n'avons jamais disparu du paysage. Il faut faire la part des choses.
Ah, les gilets jaunes, quand même.
Le média, les chaînes d'info continues, etc. Ce qui est surdimensionné et la réalité de tous les jours. Tous les jours, nous négocions dans les entreprises. Tous les jours, nous signons soit ici un accord d'augmentation de salaire, soit ici d'organisation du travail. Tous les jours, nous avons, par exemple, au mois d'avril, signé un accord sur la retraite complémentaire. Je le rappelle, évidemment, ça n'a pas fait la une des médias, mais c'est quand même, je vous le redis, la gestion de quelques 80 milliards d'euros de prestations pour 18 millions de cotisants, 13 millions de pensionnés retraités qui perçoivent une retraite complémentaire. Nous n'avons jamais disparu du paysage. Par contre, effectivement, le gouvernement pense qu'il peut se passer des organisations syndicales. Ça, c'est une erreur.
Vous pensez que c'est toujours le cas? Vous êtes zappé par le gouvernement?
Je ne sais pas si nous sommes à paix. Je pense que le gouvernement considère que c'est à lui de piloter entièrement, y compris pour le compte des employeurs et en lieu et place de la négociation collective, l'ensemble de l'économie. C'est une économie sous tutelle de l'État. Et je pense que c'est une erreur. C'est une erreur, y compris du point de vue de l'État dans notre système social français. Et c'est pour ça que je dis que la question des retraites, si on va vers ce régime unique par points, ce sera une erreur dont je n'ai aucun doute, elle sera corrigée à terme, parce que nous serons encore là, les syndicats seront là, ils sont là aujourd'hui, ils étaient là hier, ils seront là demain, ne vous inquiétez pas pour ça, nous serons toujours là pour défendre l'intérêt et faire progresser l'intérêt des salariés au travail.
Ça veut dire que vous n'attendez rien de l'allocution demain d'Emmanuel Macron, vous dites rendez-vous début janvier, le 7 janvier pour les négociations, le 9 pour la journée de mobilisation. Et d'ici là, vous assumez les perturbations qui vont durer encore 8 jours, le manque à gagner peut-être aussi pour les commerces, pour les hôtels en ces périodes de fête.
Encore une fois, nous avons appelé dès le début et bien longtemps en avance. N'oublions pas que si la grève est partie le 5 décembre, elle était annoncée depuis le mois de septembre. N'oublions pas qu'au mois d'août, FO avait dit, puisque nous ne sommes pas entendus depuis 2 ans sur ce dossier-là, le moment venu, si nous n'avons pas d'autres possibilités, nous appellerons à la grève. Nous y sommes prêts. Donc le gouvernement savait cela. Rien n'a bougé. Au contraire, il a ajouté l'âge pivot, il accélère son calendrier.
Donc vous dites que le mouvement va repartir, là, début janvier.
Le mouvement ne s'est pas arrêté. Le rendez-vous du 9 janvier a pour vocation de fédérer l'ensemble des salariés, et j'appelle les salariés à se préparer. Si le président de la République entend que la sagesse l'emporte d'une certaine manière,
oui, s'il retire son projet,
qu'il nous dit « bien, les esprits ne sont pas prêts, nous n'avons pas pu expliquer, nous n'avons pas pu convaincre du bien fondé de notre projet, nous le mettons de côté, on va regarder par exemple comment on fait pour garder les seniors en emploi, comment on fait pour limiter effectivement en lieu et place de ce qui a été décidé par le gouvernement qui est très insuffisant sur le bonus-malus, sur les contrats courts dans le cadre de l'embauche, dans le cadre des négociations assurance chômage, comment on fait pour résoudre ces problèmes-là, comment on fait pour alimenter, améliorer le fonds de solidarité vieillesse, qui est le moyen de prendre en compte les interruptions de carrière aujourd'hui et qui fonctionne déjà, mais qu'on peut encore améliorer. Comment on fait pour que l'équilibre des retraites soit assuré? On peut travailler sur la négociation, sur l'augmentation des salaires, l'égalité salariale, la cotisation sociale.
Merci beaucoup, Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière, d'être venu sur le plateau de France Info. Merci à vous, Jean-François Aquili. On se retrouve demain.
Et l'info politique, n'oubliez pas, c'est aussi un podcast original sur France Info. Paris, la bataille, le feuilleton des municipales. Un nouvel épisode tous les vendredis. Un podcast à écouter sur franceinfo.fr, disponible aussi sur l'application Radio France.